Le support athlétique vous est présenté par GameTime, votre nouvelle application de référence pour mettre la main sur des billets de dernière minute. Saviez-vous que les billets pour les matchs de Montréal ont tendance à baisser tout juste avant le début des parties? GameTime surveille les prix en temps réel parmi des milliers de fournisseurs. Il vous montre ensuite les meilleures aubaines de dernière minute, ce qui vous permet d'aller chercher des rabais allant jusqu'à 60%. Plus de 12 millions d'amateurs ont téléchargé l'application GameTime et ont découvert que c'est le moyen le plus rapide et le plus simple d'accéder aux matchs. L'application est simple, c'est facile de naviguer à travers. Il n'y a pas juste des billets pour des événements sportifs, on peut aussi en trouver pour des concerts de musique ou encore pour des pièces de théâtre. Mais vous cherchez des billets pour le match? Téléchargez GameTime sur l'App Store ou bien sur Google Play. Utilisez le cadran à votre avantage et sortez gagnant avec des billets de dernière minute. Bienvenue au Support Athlétique, c'est l'émission du vendredi 15 novembre 2019. Je suis Marc-Antoine Godin et je suis en compagnie d'Arpin Basso qui, lui, est à Washington. Salut Arpin.
Salut Marc-Antoine.
Comment ça va? T'es allé manger au restaurant que je t'avais recommandé qui est sur notre guide des restaurants du journaliste de Beat?
Oui, tout à fait. Puis c'était super bon. Bonne recommandation. Il y a Léo ici à Washington, un bon restaurant de tapas. Toute la gang, toute la bide du Canadien était là, pas mal. On a bien aimé ça, mais là, aujourd'hui, c'est un jour de match à Washington. Une journée, super belle journée à Washington. Il va faire 12 degrés aujourd'hui, alors je suis content d'aller voir patiner le Canadien dans quelques minutes. Mais avant ça, on voulait faire genre peut-être un mini-bilan du Canadien rendu au corps de la saison, plus ou moins. Ouais. Marc Bergevin nous a parlé l'autre jour de ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. Mais toi, Marc-Antoine, j'étais curieux de savoir ce que toi tu aimais et ce que toi tu aimais un peu moins de cette équipe-là.
Ben écoute, tu sais, il y a un cliché dans le hockey qui dit de trouver des façons de gagner. Je trouve que c'est une équipe qui en ce moment trouve des façons de gagner. C'est pas une habitude que tu veux prendre parce que tu veux avoir une structure qui est suffisamment solide pour pouvoir faire autre chose que te débattre comme un diable dans l'eau bénite. Mais il y a soir après soir, je trouve que le Canadien trouve des formules différentes pour l'emporter, que ce soit des matchs où Carey Price s'est imposé, d'autres où l'avantage numérique semble renaître de ses cendres après un passage à vide. Il y a différents aspects où la contribution des défenseurs en attaque, je pense que le Canadien est parmi les trois équipes qui ont obtenu le plus de buts de la part de défenseurs depuis le début de la saison. Donc ça, c'est intéressant. Cela étant dit, je trouve que il y a encore de l'amélioration à faire au niveau de la production, ben pas de la production offensive autant que du resserrement en défense. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont parler du fait que en attaque, il y a des gars comme Domi qui ne produisent pas beaucoup, peut-être Drouin un relâchement. Mais ça, je pense que ça va finir par s'ajuster, puis ces gars-là vont se retrouver. Ce qui est important pour les Canadiens, c'est qu'ils resserrent davantage la défensive et qu'ils se mettent à accorder moins de buts. Puis je pense que là, il y a un processus qui est en marche pour réduire le nombre de buts. Ça semble prometteur dans les derniers matchs, mais quand même, si le Canadien veut se donner les meilleures chances possibles d'accéder aux séries éliminatoires, c'est par là que ça va passer.
Ouais, je suis entièrement d'accord. Puis je pense que cet aspect-là du jeu commence dans zone neutre. Je trouve que dernièrement, ils ont bien commencé à cet aspect du jeu-là, mais dernièrement, leur jeu de transition offensive et défensive en termes de du jeu dans zone neutre, qui est une force de cette équipe-là, c'est une partie de la glace où le Canadien est capable d'une façon assez constante dominer un peu le jeu. Si c'est avec la rondelle pour traverser la zone neutre, ils le font d'une façon efficace plus souvent que non. Puis en termes de défensive, ils provoquent beaucoup de revirements dans cette partie de la glace-là. Puis dernièrement, puis même pas dernièrement, mais depuis plusieurs matchs, je trouve que cet aspect de leur jeu est fautif. Et ils sont pas aussi efficaces qu'ils pourraient l'être. Puis ça mène à des chances de qualité qui sont obtenues à cause du fait que les adversaires sont capables de traverser la zone neutre sans beaucoup d'opposition. Puis les attaquants, l'année passée, puis le système de Claude Julien, en général, est basé sur le fait que les attaquants vont rendre ça très, très, très difficile aux équipes adverses. Puis c'est pas le cas dernièrement. Là, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'ils resserrent. Je suis sûr que Claude Julien est là-dessus parce que tout part de là. Toute l'offensive oui. part de leur façon de traverser la zone neutre. Puis toute la défensive part du fait que les équipes ont beaucoup de misère à faire la même chose, à traverser la zone neutre. Alors, moi, ça serait mon inquiétude. En termes de ce que je trouve positive, tu sais, la prestation de Shea Weber, je trouve que c'est vraiment un point super positif. Puis ce qui est drôle, dans son cas, tu penses, ses 5 premiers matchs, à peu près, tout le monde est en train de dire qu'est-ce qui se passe. C'est un gars
Weber
qui,
est fini.
Weber est fini, il devrait prendre la retraite, le jeu est trop vite, tout ça. Puis peu à peu, très graduellement, c'était pas quelque chose de... Puis à ce moment-là de la saison, tu sais, j'étais en train de parler avec un dépisteur au Centre Bell, puis j'ai mentionné le fait que, hey, es-tu surpris de voir à quel point Weber est lent, puis ça va pas bien, puis il dit, ah, bah, tu sais, non, ça m'inquiète pas, parce que les gros gars prend tout le temps du temps à se mettre en marche, puis lui, il va être correct, là. Deux semaines plus tard, il était pas juste correct, mais il était en train de jouer... comme le Shea Weber que tout le monde s'attendait après tout un été d'entraînement qu'il a eu. Puis c'était très, très graduel. Il n'y a pas comme un match où tu peux dire « Ah, oh, ça, c'est le match où Weber s'est remis en marche. » Mais c'est juste, ouais. Peu à peu, il a retrouvé son niveau de jeu au point où, tu sais, défensivement, il ne faisait plus d'erreurs ou pas beaucoup. Il commençait à produire offensivement. Puis il était impliqué dans l'attaque. C'est ça que je trouve surprenant. C'est souvent que... il s'ajoute, il est troisième ou quatrième homme pour la poussée offensive. Il est plus impliqué en termes d'attaque qu'on l'a vu dernièrement. Puis je pense que c'est ça le plus bel indicateur de ce niveau de santé. C'est qu'il a l'énergie pour le faire, puis l'énergie pour revenir. Puis en tout cas, ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Canadien. S'il peut continuer comme ça, ça reste à voir s'il est capable de gérer ses énergies et gérer les minutes que Claude lui donne. Puis je pense que Claude Julien et Luke Richardson font une très bonne job en termes de limiter ses minutes. C'est Jeff Petrie qui est vraiment le gars qui obtient le plus grand part des minutes de match en match.
Il a été un cheval contre les Blue Jackets de Columbus l'autre soir. C'était hallucinant, là.
Ouais, ça. Deuxième plus haut utilisation de sa carrière, là. Alors c'est comme... Ouais. C'est vraiment... Je trouve qu'il fait... qui font bien ça, ils ont trouvé une bonne zone entre 21 et 23 minutes pour Shea Weber, et Jeff Petrie, il peut en prendre, puis je pense que ça, c'est un élément très positif du premier quart de la saison du Canadien, c'est le fait qu'ils sont capables de faire ça avec Shea.
Oui, absolument, puis écoute, je pense que, puis on se rejoint un peu quand je te parlais du fait que j'espérais que le Canadien resserre sa défensive. Ça passe, entre autres, par Shea Weber et par Petrie. C'est eux qui sont les fers de lance à la ligne bleue. Ben Sherratt aussi, je pense que c'est assez intéressant, le fait qu'après une période d'adaptation, son jeu s'est stabilisé. Et peu importe qui joue avec Weber ou avec Petrie, son jeu a gagné en constance. Et je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une... c'est une coïncidence ou non, mais on sent que Sherratt s'est replacé en même temps que l'infériorité numérique. Dans les 8 derniers matchs, l'infériorité numérique a un taux de succès de presque 82%, ce qui est très encourageant parce que on le sait, le Canadien en arrachait royalement en début de saison. Fait que, tu sais, si tu as les unités spéciales, autant l'avantage numérique que le désavantage numérique qui arrivent à se maintenir dans le milieu du peloton, moi j'ai bon espoir que le jeu traditionnel... En fait, le jeu que Claude Julien a mis en place et auquel il nous a habitués du Canadien à 5 contre 5 redevienne prédominant, redevienne la signature de cette équipe-là et fasse en sorte qu'elle connaisse du succès d'ici la fin de l'année.
Ouais, mais honnêtement, c'est quoi? T'sais, tout le monde fait des bilans en ce moment, puis je pense que nos auditeurs sont peut-être un peu tannés de nous entendre notre opinion, juste nous, en train de parler de ça. Alors, on a décidé d'inviter... de quelqu'un pour partager ses opinions aussi. J'ai demandé à Chantal McCabe d'RDS.
Pas n'importe quel. C'est ça, pas n'importe quel quelqu'un.
Non, absolument. C'est Chantal McCabe, la légende de RDS, qui, qui a gracieusement accepté l'invitation de venir nous jaser un peu au sport athlétique. Alors, on écoute notre entretien avec elle.
Et là, un peu dans ce bon vendredi à Washington, tu as l'honneur, nous avons l'honneur et nos auditeurs aussi, d'avoir comme invité Chantal Maccabée. Bonjour Chantal.
Salut les gars, comment ça va?
Ben, ça va super bien, on est super content de finalement être capable de faire ça. Ça fait longtemps qu'on en parle. Là, voilà, on est là. Puis, dans le fond, on voulait. Tu sais, Marc Bergevin a parlé l'autre jour. On est rendu un peu au quart de la saison. On voulait parler un peu de la saison du Canadien avec toi, tes impressions après une vingtaine de matchs, pas exactement, mais plus ou moins le quart de la saison. C'était quoi tes attentes pour la saison? Est-ce que les attentes étaient. Qu'est-ce qui t'a surpris d'une façon peut-être positive et négative?
Le Canadien est exactement, comme on dit là, dans l'expression, et là où je pensais qu'il était pour être.
Ouais, c'est ça.
Mes attentes étaient là. C'est un début de saison semblable à celui de l'an passé. Et ça va bien. Je trouve, cette année, je donne une petite étoile dans le cahier de Claude Julien. Mm-hmm. Je trouve qu'il m'impressionne encore plus cette année. Je trouve qu'il nous démontre un sentiment d'urgence qu'on ne voyait pas l'an passé. Ouais. Probablement dû au fait qu'il a raté les séries éliminatoires par 2 points seulement. Et là, cette année, il se dit... C'est pas de l'impatience. C'est ça que j'aime. C'est pas de l'impatience. C'est OK, qu'est-ce qu'on va faire pour réorganiser ça? Bon, il l'a fait avec le désavantage numérique, ouais. Qui était extrêmement difficile. Et là, il a dit, bon, là, je vais m'en occuper, là, puis on va régler le problème. Mm-hmm. Et depuis ce temps-là, ça va beaucoup mieux. Il l'a fait avec l'avantage numérique, qui ouais. va bien, qui a connu un petit creux de vague, puis là, qui a recommencé à produire. Il l'a fait avec Tatar. Il l'a fait avec Drouin, il l'a fait avec Suzuki dans l'autre sens.
Ouais.
Donc, oui, il va bien, parfait, je vais l'utiliser, je vais lui donner plus de responsabilités. J'aime aussi ce qu'il fait quand il va critiquer positivement ou négativement ses joueurs. Il ne protège pas ses joueurs. Mm-hmm. Quand il l'a dit de Tatar la semaine passée, il n'a pas été bon.
Ouais.
Et on va régler ça aussi, ce problème-là. Il doit être plus discipliné, il doit être meilleur que ça, je m'attends plus de lui. Et il n'y a rien de... La façon dont il fait, c'est pas négatif, c'est même... c'est presque inspirant pour le joueur. Tu sais, le joueur... Il responsabilise ses joueurs, finalement.
Ouais. Et ça, enfin, le temps presse, même en novembre.
Ouais, on n'a pas de temps à perdre, on n'a pas de points à perdre.
Ouais.
Et j'aime ce sentiment d'urgence-là qu'il a inculqué chez cette équipe-là cette année, de sorte que tout le monde met la main à la pâte. Et j'aime ça. Jusqu'à présent, je suis relativement satisfaite du Canadien.
Oui, ouais, je dirais que Claude Julien, c'est tout à fait une... Tu sais, il y a un comportement un peu différent. Je trouve que l'année passée, en début de saison, ça allait bien. Il était plus décontracté. Il faisait des blagues avec nous. Je sais pas, Marc-Antoine, toi, est-ce que tu trouves que c'est un Claude Julien plus le mois de février qu'on voit en novembre, qui est un peu plus tendu autant qu'il
faut? Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord parce que l'année dernière, il y avait... on a tellement dit que les attentes étaient basses. Peut-être que les attentes à l'intérieur du vestiaire étaient plus élevées, mais il y avait un peu moins de pression, c'est-à-dire c'est on repart la machine, puis on va essayer d'évaluer où on en est en tant qu'équipe. Les résultats tôt dans la saison avaient été positifs, ce qui avait mis tout le monde un peu de bonne humeur, puis à commencer par Claude Julien qui était un peu guilleret. Cette année, il y a davantage le couteau entre les dents, la marge de manœuvre qu'il donne à tout le monde est beaucoup moins grande, et il veut vraiment éviter les relâchements. L'année dernière, ça avait très bien commencé, mais il y a eu une baisse de régime à un moment donné au mois de novembre, puis je pense qu'il ne veut pas que ça se produise cette année, puis c'est pas en voie de se produire non plus. Donc ça, à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, il est plus sérieux, il est plus sous la job, comme on dit. Puis, en fait, ça ressemble beaucoup plus au Claude Julien que je suis habitué de connaître, le Claude Julien qu'on a côtoyé pendant des années quand il était à Boston.
C'est totalement ça, parce que l'an passé, le Canadien, bon, vous vous rappelez, les gars ont connu une séquence de cinq défaites au mois de novembre. Imaginez si ça se produit cette année avec le classement archi-serré qu'on a.
Ben oui.
Ça serait catastrophique. Et ça, exactement, il faut éviter ça. D'ailleurs, le Canadien a démontré beaucoup de constance depuis le début de la saison, n'a connu que deux fois une séquence de deux défaites. Et ça, c'est très significatif. Mais oui, tu as raison, Marc-Antoine, on retrouve le Claude Julien qu'on avait à Boston.
Mais ben, dans le fond, parce que quand tu y penses... Imagine l'été de Claude Julien. T'sais, en début de saison l'année passée, il a dit à ses gars, si on atteint 96 points, on va faire les séries. Okay? Puis finalement, ils ont pas fait. Alors, tu sais, des séquences de cinq défaites, des points perdus ici et là pour des raisons niaiseuses. Un coach, tu sais, j'ose croire. Ben, en fait, j'espère qu'un coach est capable de laisser ça derrière lui quand il rentre, mais ça se peut pas, tu sais, ça, c'est sûr que Claude a pensé à ça pendant tout l'été, puis il a dit que...
C'est clair.
Ouais, alors, rendu là, il dit, écoute, chaque point est précieux, chaque petit détail est précieux, chaque problème, il faut que ça se règle tout de suite, puis c'est vrai, on fait un peu moins de patience de sa part, puis la situation, ça... Tu sais, t'as besoin de faire ça, tu sais, quand Marc Bergevin a parlé l'autre jour, tu sais, c'est exactement ça qui a décrit la façon que la Ligue va en ce moment. On ne sait jamais quand tu pourrais gagner un match. Tu sais, Détroit est en train de battre des équipes qu'il n'y a aucune raison à croire qu'ils pourraient battre. Alors, c'est ça. Le Canadien est dans la course, mais en ce moment, tu sais, ils sont quand même... Il y a des équipes derrière eux, les Maple Leafs et le Lightning.
Ouais, qui n'ont aucun sens. Ouais. Et qui vont remonter.
Oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça que, tu sais, les points qu'ils mettent en banque en ce moment, c'est super important.
Ouais. Mais ça va prendre un meilleur gardien auxiliaire aussi.
Ouais.
Il va falloir que Kincaid soit meilleur qu'Antinimi l'a été l'an passé.
Ouais.
Ça va aider aussi.
Ben, en fait, ça nous amène à notre prochain sujet. Tu sais, moi, Marc-Antoine, on parlait tellement du fait que, tu sais, le magique 60 matchs de Carey Price, là, puis c'est drôle, quand tu étais à Arizona puis à Vegas, je sais pas si t'as eu comme le sentiment de ce qui se passait à Montréal, là, mais à Montréal, le débat était lancé que Carey Price devrait jouer les deux, puis moi j'étais comme... Voilà, on est en train de le faire encore. Puis ce que Carey a dit en début de saison, on verra ce qui arrive, on parle de ça chaque année, on verra. Puis effectivement, c'est ça qui est en train de se passer, c'est que ils sont pas assez confortables de laisser Carey sur le banc, puis voilà, ça donne ce que ça donne. Là. Ça donne une pace de 66 matchs cette année.
Ben, c'est normal, parce que, écoute, c'est une équipe qui est pas assez bonne pour pouvoir se créer un coussin trop tôt dans la saison. Et ça fait en sorte que pour maximiser les chances de gagner, on se tourne vers Carey Price. Il y a aussi le calendrier qui rentre en ligne de compte, parce que quand tu as un gardien auxiliaire en qui tu n'as pas vraiment confiance, tu vas tourner vers lui seulement dans les deux matchs en deux soirs ou dans un contexte de 3-4. Alors, il n'y en a pas eu énormément depuis le début de la saison, mais là, on va en avoir un à chacune des trois prochaines semaines. Alors, à mon avis, c'est vraiment... d'ici le début du mois de décembre, donc au cours des trois prochaines semaines, qu'on va avoir véritablement une évaluation et qu'on va vraiment savoir si Keith Kincaid va être l'homme de la situation pour être un bon auxiliaire à Carey Price ou si, dans le fond, il va y avoir urgence de le remplacer. Je pense qu'après trois matchs, à écouter Marc Bergevin, il est prêt à lui donner un peu plus de marge de manœuvre puis lui donner la chance au coureur de se replacer, c'est correct. Sauf que là, il va avoir trois départs dans les trois prochaines semaines. C'est là que ça va jouer pour lui. Et puis, on parlait tout à l'heure du fait que Claude Julien avait le couteau entre les dents puis que sa patience était plus courte. Bien, si le DG pense le moindrement de la même manière, ils vont se dire, là, nous, on n'a pas le luxe d'attendre trop longtemps, de faire en sorte que le résultat qu'on a eu avec Antiniemi se répète cette année. Il faut qu'on agisse. Alors, je ne sais pas si c'est nécessairement... le match en fin de semaine, parce que je présume que Kincaid va jouer contre les Devils du New Jersey, qui va faire foi de tout. Mais à mon sens, s'il est pour jouer trois matchs dans les trois prochaines semaines, c'est là qu'on va avoir la meilleure réponse à son sujet.
Oui, le Canadien n'aura pas le choix de l'utiliser de toute façon. Même ben si, si tu parles à Carey Price, lui, là, ça ne lui dérange pas d'être là à chaque match. Là.
Non,
c'est
ça. Il n'y
a aucun problème là, avec ça. Même que probablement que Carey aimerait jouer ça, lui, 65-66 matchs. Sauf que tu arrives en série éliminatoire et tu es complètement épuisé. Et ça ne t'aide pas. Mais il va falloir que le Canadien fasse confiance à Kincaid. Si ne serait-ce que pour te donner une marge de manœuvre pour faire une transaction si éventuellement tu n'étais pas satisfait.
Ouais.
Mais je suis d'accord avec vous, les gars. Tu as besoin d'un deuxième gardien.
Bien, ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Mais le jeu, l'affaire là-dedans, c'est que s'ils veulent vraiment que Carey Price se rend un chiffre qui est en bas de 60 matchs, tu peux pas juste donner Kincaid les back-to-back et les 3-4 et les choses de même, parce qu'il y en a pas assez dans la saison. Alors, il va falloir que, à un moment donné, Claude Julien dit que, écoute, on va jouer Keith Kincaid. Carey Price, il est reposé. On joue contre une équipe qui est peut-être pas nécessairement au bas fond du classement, mais on va jouer Kincaid anyway, parce qu'on veut, on veut tenir à ça. On veut garder les matchs de Price en dessous. Puis là, check la réaction à Montréal quand ça va arriver.
Non, ça va être la panique.
Ouais, c'est ça, ça va être la panique. Il va y avoir une émeute dans les rues. Tu sais, c'est comme, c'est, oh, comment ça se fait qu'on paye un gardien 10,5 par année, puis on peut pas le faire jouer un jeudi soir contre je sais pas qui, là. Mais c'est, à un moment donné, le calendrier fait en sorte que, juste en donnant Keith Kincaid les matchs qu'on donne d'habitude à un gardien auxiliaire, Price va quand même jouer son 65 matchs, ses 66 matchs. Puis, alors, quand ça arrive, j'ai vraiment hâte que ça arrive, parce que même déjà, en parlant de back-à-back, Arizona-Vegas, les deux équipes allaient super bien, mais sur la route, dans une autre fuseau horaire, le monde disait que Price devrait jouer les deux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont penser quand un jeudi soir, quand il y a deux jours de repos, qu'ils ne jouent pas? J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir si Claude va le faire, parce que dans le fond,
mais pour que
je
ça
suis d'accord avec vous autres.
Mais je pense que ça va dépendre si le Canadien réussit à se forger un petit coussin, justement, comme Marc Bergevin nous l'a dit cette semaine. Si le Canadien réussit à faire ça, la décision va être beaucoup plus facile à prendre.
Ouais.
Mais si le Canadien encaisse les défaites ou se retrouve en dehors du quatrième as, ou bon, il va être tenté d'utiliser de plus en plus Carey Price. Mm-hmm. Je pense que ça va aller...
Mais ce qui est ironique aussi, c'est dans tout ça, c'est que le calendrier au mois de novembre est assez facile. C'est, en fait, entre guillemets, évidemment, là, mais c'est le calendrier le plus accessible aux Canadiens dans toute la saison. Une fois qu'on va être rendu plus tard, en deuxième moitié, après le match des Étoiles, par exemple, là, ça va devenir drôlement plus corsé. Alors, est-ce que tu dis, ben là, c'est le bon temps de l'année pour pouvoir utiliser notre auxiliaire? Ou bien tu dis, ben ça va être... On va essayer de le garder pour plus tard dans la saison, parce que les matchs vont être plus difficiles, mais en même temps, on ne veut pas non plus que Carey Price soit brûlé en deuxième moitié de saison. Alors, tout ça est fonction du fait que le gardien auxiliaire doit mériter la confiance de son entraîneur, parce que s'il ne l'a pas, ben, il va toujours garder la bride serrée puis dire ben, « je vais m'en remettre à Carey tout le temps ». Puis ça, c'est un cycle qu'il faut que le Canadien arrive à briser à un moment donné.
Ben c'est ça, l'ironie, c'est que effectivement le mois en cours, c'est le meilleur mois de la saison pour bâtir ce coussin-là. Sauf que, alors pour le bâtir, il faut que tu joues Price, mais tu es en train de bâtir le coussin pour reposer Price.
Oui,
alors,
c'est comme... mais c'est ça quand même.
Alors c'est difficile.
Mais c'est très ironique.
Oui, c'est ça. C'est une situation qui n'est pas tout à fait simple, parce que tu sais, après le mois de février, là, le calendrier du Canadien devrait être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et effectivement, s'il veut se rendre en série, juste jouer pour 500 au mois de mars et avril va pas être évident, même avec Carey Price.
Puis tu sais, t'as le voyage en Californie au mois de mars, là.
C'est un voyage de 4 matchs cette année.
Exactement. Ouais. Heureusement, t'as une journée de repos entre chaque match.
Ouais.
Mais tu sais, si tu te bats encore ben, pour une place en série, puis si le classement est extrêmement serré, puis t'as une journée de repos en chaque match, ben Claude Julien va être tenté de faire appel à Carey Price pour les 4 matchs.
Ben, c'est certain.
C'est évident.
Ça pas... ouais.
À quel point c'est difficile en plus de gagner les matchs là-bas. Traditionnellement, les Canadiens ont énormément de difficultés.
Ouais.
Donc,
puis à quel... c'est... étant donné, c'est... le moment de la saison où ce voyage-là se trouve, c'est fort possible qu'ils vont avoir besoin de ces matchs-là pour se rendre en série.
Oui,
ouais.
Alors, c'est la semaine de la fin du calendrier.
Oui.
Mais Chantal, au-delà de Keith Kincaid et de ses 3 matchs depuis le début de la saison, là, quand tu regardes vers l'avenir, vers le reste de la saison, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète particulièrement par rapport aux chances du Canadien de faire les séries, entre autres choses? Et puis, à l'inverse, y a-t-il quelque chose qui te rassure, qui te fait confiance, qui te donne confiance?
Bien, écoute, en ce moment, ce qui... Puis je le dis, m'inquiète entre guillemets, c'est le fait que le top 6 ne marque pas de but.
Ouais.
À peu près pas. Dans les derniers matchs, en fait, depuis le début du mois de novembre, ce sont beaucoup les défenseurs. T'as Nate Thompson qui a marqué. Tatar a deux buts dans cette séquence-là, mais Gallagher en a juste
un. Il est plus dans le top 6.
Ouais, en plus, c'est vrai. Mais tu sais, bon, je trouve que c'est ça, le top 6 ne marque pas. Domi ne marque pas. Drouin ne marque pas depuis le début novembre. Et ça, bon, c'est peut-être juste une passe, tu sais, un petit creux de vague. Mais à un moment donné, tu peux pas demander à tes défenseurs de faire clair. Sur la patinoire.
Puis encore une fois, c'est clair que Claude Julien partage ton opinion là-dessus, parce qu'il a mentionné l'autre jour que effectivement, on n'a pas d'offensive de nos attaquants. Puis c'est clair que si le trio de Dano, le trio de Domi ne produit pas, le Canadien va avoir la médiocre à gagner des matchs.
Exact. C'est sûr. Ouais. Et quand tu parles de Domi, son jeu m'inquiète cette année. Je trouve que l'an passé, il distribuait beaucoup mieux la rondelle, fonçait au filet, était plus... Cette année, je sais pas, je le trouve... je trouve qu'il garde la rondelle trop souvent. Je trouve qu'il hésite à faire des passes. Je trouve qu'il ne joue pas nécessairement très bien son rôle de joueur de centre en ce moment. Je sais pas pourquoi.
Ben, ça nous amène à un autre sujet, je pense. Ouais. Si ça ne te dérange pas, mais... Parce que, tu sais, l'autre jour... L'autre jour, j'avais demandé à Marc Bergevin, puis c'est une réalité du Canadien qui ont Jesperi Kotkaniemi, Nick Suzuki et Ryan Poehling qui s'en vient pour jouer au centre. Ouais. Alors, à un moment donné, il faut croire que Max Domi va être déplacé à l'aile, remis à l'aile.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de ça, la gestion de Kotkaniemi cette saison, avec sa blessure, puis son lent début de saison, si tu veux, même s'il a marqué deux buts sur la route dès le départ, là, mais tu sais, le jeu de Suzuki, tout ce qui dessine pour le Canadien en termes de sa ligne de centre, et le jeu plus ou moins inspiré de Domi à date, comment tu vois le Canadien faire cette transition-là?
C'est une excellente question qui n'est pas évidente à répondre. Kotkaniemi, écoute, je me posais la question cette semaine, puis je me disais, je peux pas croire, parce qu'il y en a qui disaient sur les médias sociaux, ben oui, mais il a pris 16 livres, peut-être qu'il a des difficultés à s'habituer à ça. Moi, ça l'a peut-être un peu ralenti, mais ça t'enlève pas tes habiletés, ça enlève pas tes mains, ça t'enlève pas ta vision du jeu, ce que Kotkaniemi a. On l'a vu faire des passe sa vente. On l'a vu en confiance l'an passé et cette année, bon, est-ce que c'est sa blessure, Alain? Je pense pas, parce que dès le camp d'entraînement, c'était difficile pour lui. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans sa tête de jeune garçon ou d'ado, parce que c'est encore un ado.
Ouais.
Ben, c'est pas si tough que ça, la Ligue nationale, finalement. Ça a bien été l'an passé. Ça va être facile cette année. Je ne sais pas. Je trouve ça difficile. Puis je trouve que la gestion est maladroite.
Ouais.
Je trouve que la gestion est maladroite avec Kotkaniemi. Donc, et je trouve qu'on fait mieux du côté de Suzuki, mais encore là, Suzuki a été bon dès le début du camp d'entraînement. Claude Julien lui en a donné un petit peu, et aussitôt que Suzuki lui en donne, ben Claude Julien lui donne plus de temps de glace, des responsabilités en avantage numérique. Lui aussi, j'aime pas qu'il joue à l'aile, puis qu'il joue au centre. Puis, c'est comme Ryan Poehling, à l'aile, au centre. Non, ce sont des joueurs de centre. Kotkaniemi, la même chose. Je sais pas, je trouve qu'on n'aide pas à sa confiance à Kotkaniemi.
Ouais,
c'est mon
impression. Absolument.
Ce que je trouve problématique dans le cas de Kotkaniemi, c'est que il y a l'entraîneur et tous les entraîneurs sont dans un mode, je vais utiliser l'expression anglaise, What have you done for me lately? Qu'est-ce que tu as fait pour moi récemment? Qui va m'aider à gagner ce soir et demain? Tandis que je pense qu'il y a une approche beaucoup plus large, beaucoup plus de développement à long terme qui est importante de faire dans le cas de Kotkaniemi, puis de dire de quelle manière on peut le placer sur la bonne voie pour pouvoir faire en sorte qu'il devienne le joueur de centre qu'on veut qu'il devienne. Parce que je pense que malgré les performances de Suzuki puis le fait qu'en ce moment, il y ait un peu plus la saveur du mois, moi, je crois que le futur premier centre du Canadien, ça va être Kotkaniemi, encore plus que Suzuki. C'est pas ce que le début de saison nous a laissé suggérer, sauf que c'est important, mais je comprends que le Canadien va vouloir gagner des matchs, mais il va falloir aussi dire, ben, il faut qu'on trouve un moyen de le remettre de remettre Kotkaniemi dans des conditions gagnantes, puis pas faire en sorte que, parce qu'il a été blessé ou parce qu'il a eu une dizaine de matchs où ça a mal été, ben là, subitement, c'est lui qui est en danger, qu'on va utiliser, avec qui on va jouer au yo-yo, au dépend de gars comme Jordan Wheel ou Nick Cousins ou quoi que ce soit. À un moment donné, je pense qu'il faut pas oublier le chemin qui a été fait par ce petit gars-là l'année dernière. Puis peut-être aussi ne pas oublier le fait qu'il a seulement 19 ans, puis que c'est un investissement à long terme. Sauf que quand tu plantes un arbre, il faut que tu le plantes droit si tu veux qu'il pousse droit aussi. Là,
et vivre avec les erreurs qu'il va faire. C'est, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'à cet âge-là, perdre confiance en ses moyens, ça arrive vite et ça arrive souvent.
Alors, c'est la première fois de sa vie qui est en train de vivre ça, vivre une situation où il n'y a pas de succès. Alors, il y a ça aussi. C'est un jeune garçon, puis...
Ça devait arriver, ça, à un moment donné.
Oui, c'est sûr, ça arrive à tout le monde. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Mais en même temps, il faut tenir ça, tu sais, comme une réalité pour lui, que non seulement il vit dans un nouveau pays, une nouvelle culture, tout ça, mais juste le fait qu'il ait toujours été... Il a toujours joué à un niveau qui était plus haut pour lui, puis il a toujours eu du succès. Exactement. Tout le monde pensait qu'il n'allait pas avoir du succès, puis il l'a eu anyway. Puis il l'a fait, même l'année passée, il l'a fait. Alors, dans le fond, cette saison est comme la première saison où il n'est pas en train de surpasser les attentes pour lui. Mm-hmm. Alors, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'il gère.
Et tu vois qu'il se pose beaucoup de questions, le jeune, parce que juste avec nous, mm-hmm. L'an passé, quand il est arrivé, il était drôle, il disait à peu près tout ce qui lui passait par la tête, ouais. Sympathique, attachant, peu importe qu'il jouait des bons matchs ou pas, il nous parlait, pardon, c'est sûr que son anglais était un peu limité et meilleur cette année, je te dirais, mais... très attachant, drôle, sympathique. Cette année, il est très fermé dans les entrevues avec nous.
Oui, ça, c'est sûr. Puis je pense que c'est un produit Mais premièrement, c'est un produit du fait qu'il ne peut clairement pas parler de sa blessure. L'équipe l'a dit de ne pas en discuter, pas en donner des détails. Tu sais, le détail que Marc Bergevin nous a donné était quand même assez différent qu'une blessure à l'aine. Il parlait d'une blessure musculaire au... Il a dit core en français, mais il voulait dire core en anglais. ce qui est intéressant, c'est le même genre de chirurgie que Sidney Crosby vient de faire. C'est ça. Alors, mais c'est vrai que le côté mental est quelque chose qu'il va falloir qu'il gère, puis juste être certain qu'il ne perd pas la confiance en ses moyens, parce que c'est quand même un joueur talentueux, puis une grande partie de l'avenir du Canadien. On voulait peut-être switcher de l'avenir pour parler du passé. Il y a ton collègue Guy Carbonneau qui va être intronisé au Temple de la Renommée. Marc-Antoine a écrit un super bon texte l'autre jour en parlant à plusieurs des attaquants auxquels il a fait face au cours de sa carrière. Mais on voulait avoir ta perspective de côtoyer RDS pendant tellement d'années. Qu'est-ce que ça veut... Mais toi, quand tu as eu la nouvelle, dans le fond, c'était quoi ta réaction? C'était quoi ta première pensée?
J'ai fait « enfin! » Ouais. Moi, je suis très, très contente de ça. Moi, j'ai toujours aimé Guy Carbonneau. Bon, je l'ai vu jouer longtemps. J'ai même vu jouer junior. Mm-hmm. Là, on parle d'un gars qui était dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Saguenay-Chicoutimi. À sa dernière saison, il a marqué 72 buts en 72 matchs. Ouais. C'est un gars extrêmement offensif qui a complètement transformé son jeu dans la Ligue nationale, qui a gagné le trophée Selke, qui est devenu un des meilleurs attaquants défensifs du circuit. C'est le gars qui avait le feu dans les yeux. C'est le gars qui carburait aux missions défensives. C'est le gars qui est allé voir Jacques Demers en finale de la Coupe Stanley contre les Kings, qui avait dit à Jacques, tu me mets contre Wayne Gretzky, je vais m'arranger pour qu'il ne nous batte pas dans cette série finale-là. Et il avait fait un travail extraordinaire face à Wayne Gretzky et le Canadien avait gagné la Coupe Stanley. Bravo, c'est un gars extrêmement sympathique. C'est un joueur d'hockey qui mérite ça parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je trouve qu'il a sa place au Temple de la Renommée. Je suis très très heureuse et je vais être là à Toronto lundi et pour faire des entrevues avec lui. Je suis très 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 contente. Non seulement c'est un gars extrêmement sympathique, Mais c'est un gars qui a apporté beaucoup au Canadien de Montréal et à la Ligue nationale de hockey dans son rôle d'attaquant défensif. Là,
ben oui, il a changé le game un peu. Là.
Absolument, ouais, absolument. Absolument.
Au niveau des tirs bloqués, c'est un gars qui a amené, tu sais, avant Guy Carbonneau, des attaquants qui bloquaient des lancers, il n'y en avait pas beaucoup, tu sais. Ça, c'est un aspect du jeu qui l'a changé. Puis tu mentionnes, Chantal, le fait qu'il a complètement changé sa façon de faire en passant de joueur offensif à joueur défensif. Je ne connais pas exactement l'étendue de la carrière junior de Claude Provost. Ou même celle de Bob Gainey, je me souviens pas exactement de ses statistiques offensives avec les Peaks de Peterborough, mais Guy Carbonneau est un excellent exemple de joueurs qui comprennent ce qu'ils doivent faire pour avoir un maximum d'impact dans la Ligue nationale et ne pas s'accrocher aux résultats qu'ils ont eus par le passé. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire dans le hockey, d'abandonner les résultats qu'on a eus à des niveaux inférieurs et de simplement regarder quelle est la situation, quels sont mes outils par rapport au jeu qui se joue dans la Ligue nationale, de quelle manière je peux être le plus efficace. Puis un bon exemple de ça, c'est Jonathan Drouin qui commence à peine à se sortir de ce moule-là, mais qui a passé des années à frapper un mur pour cette raison-là. Et Guy Carbonneau, il l'a compris extrêmement vite dans sa carrière et ça lui a permis, au lieu d'être un joueur offensif très moyen, d'être un gars qui, à cause de sa défensive impeccable, se ramasse au temple de la renommée. Ça, c'est spectaculaire.
Exactement. Il a travaillé très fort pour se rendre là aussi. Mais contrairement à Jonathan Drouin, il est resté au centre, Guy Carbonneau.
Juste pour terminer, Chantal, avant... c'est Chantal et moi, il faut qu'on aille au Morning Skate du Canadien, mais on voulait parler un peu de ton livre, de ta carrière, tu sais, en parlant de RDS. Ça fait un an et demi que c'est sorti. Comment est-ce que tu trouves que le monde te regarde d'une différente façon, là que ton histoire est là, puis tout ce que tu as vécu étant femme dans un monde hyper masculin, c'est comme genre au plus haut point. Est-ce que le monde te voit d'une manière différente, tu trouves?
Ben, je pense que oui, les gens beaucoup me disent j'ai appris énormément de choses. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savaient pas. Mm-hmm. Et ça, c'est très drôle parce qu'une semaine avant que le livre soit sorti, donc il y a un an et demi, à un moment donné sur Twitter, il y a un jeune homme qui m'écrit Hey, je te vois couvrir le Canadien, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour mériter ça?
Ouais.
Alors, j'écris c'est au ça. Jeune homme Bonjour Alexandre, quel âge as-tu par curiosité?
Ouais, c'est ça.
Et il me dit 17 ans. J'ai dit OK, ça fait 36 ans que je fais ce métier-là. J'ai trouvé ça très, très drôle.
Les jeunes hommes sur Twitter sont tellement agréables.
Je trouvais ça drôle. Alors, j'ai dit, bon, ben, j'ai dû expliquer aux jeunes hommes que ça faisait très longtemps que je travaillais dans le hockey. Mm-hmm. Et que, bon, j'avais travaillé très fort pour être là. Mais oui, c'est ça. C'est la perception. Tu sais, les gens ne le savent pas. Il y en a qui le savent, ça fait longtemps. Ceux qui regardent RDS depuis, ça fait déjà 30 ans que je suis à RDS.
Ouais.
Mais écoute, j'ai touché à tout, tu sais, j'ai été chef d'antenne pendant 23 ans à RDS, ensuite mm-hmm. j'ai été sur le beat du Canadien, je travaille aux Jeux olympiques comme chef d'antenne, mais aussi pour le Comité international olympique, comme annonceur maison sur les différents sites, puis j'explique un peu comment ça s'est passé, comment c'est quoi ma philosophie, bon, j'étais statisticienne pour les voisins de Laval quand Mario ouais. Lemieux était là, j'en ai calculé des statistiques.
T'as fait travailler fort
pour elle. Ah, oh ouais, c'est pas un job facile à cette époque-là.
Tu sais, quand il y a le fameux débat, c'est Gretzky le mieux, puis moi, c'est sûr que c'est Mario.
Ben.
Parce que je voyageais avec les voisins à ce moment-là. Fait que j'ai vu tous ces matchs juniors. Alors, j'ai vu faire des choses extraordinaires. Mais c'est ça. Fait que je raconte un petit peu ça, ma carrière, mais les débuts de RDS aussi. Ouais. Et ça, les gens aiment beaucoup ça parce que c'est drôle, parce qu'on était une gang de jeunes dans vingtaine. On ouvrait une station de sport avec des moyens extrêmement limités,
ouais.
Techniquement, et au niveau du personnel. Et il y a des anecdotes qui sont drôles aussi, parce que je raconte, tu sais, comment on était, cette gang de jeunes passionnés, mais inexpérimentés, mm-hmm. puis comment ça se passait un petit peu. Alors,
ouais. Puis en fait, une chose que j'aimerais, juste pour terminer avec toi, c'est de voir, parce que d'une certaine perspective, tu sais, les médias ont changé beaucoup, ouais. C'est clair, mais juste en termes démographie, tu sais, en termes du nombre de femmes qui sont là, c'est pas encore à un niveau que ça devrait l'être, mais au moins, il y en a d'autres.
Oui, absolument.
Puis toi, t'as vécu pendant longtemps où t'étais le seul, pas mal.
Ouais.
Là, alors, comment est-ce que t'as vécu cette transition-là pour voir que peu à peu, ça commence à changer, puis les attitudes commencent à changer un tout petit peu aussi.
Oui, oui, ça change beaucoup, je te dirais. Et c'est tant mieux. Je trouve ça extraordinaire qu'il y ait de plus en plus de jeunes femmes qui veulent faire ce métier-là, qui n'est pas facile pour une femme, je te dis ça, puis je te dis juste dans le sens où tu vas avoir des enfants à un moment donné. Fait que c'est pas évident. T'sais, on a ce rôle-là en plus. Puis là, quand tu tombes enceinte, tu es sur le beat, Elisabeth Rancourt le fait, c'était pas évident. Elle avait hâte d'arrêter de prendre son congé. Là, tu prends ton congé de maternité. Là, écoute, c'est, moi, j'étais chef d'antenne à ce moment-là quand j'ai eu mes enfants. J'allaitais toute la nuit, puis le matin, j'étais à RDS. Je dormais pas, ça avait aucun sens. Mm-hmm. C'est difficile d'avoir ce double rôle-là quand tu veux l'avoir, ce double rôle-là, mais ça se fait. Bon, j'ai deux grands garçons aujourd'hui et ça va bien. Ouais. Mais mettons mieux, les mentalités changent. Je me suis tellement fait insulter à mes débuts avec les réseaux sociaux. Ça arrive encore.
Je ne veux pas imaginer, ouais, c'est ça. Au moins, il n'y avait pas les réseaux sociaux
à cette époque-là. Ouais. Mais depuis les réseaux sociaux, ça continue, mais beaucoup moins qu'avant. Mm-hmm. Et les gens acceptent que les femmes connaissent le sport, aiment ça, sont passionnées et peuvent raconter aussi ce qui se passe dans le domaine du sport. Tant mieux. Il n'y en a pas beaucoup encore, mais pour toutes sortes de raisons, mais au moins, les patrons sont ouverts à ça et les amateurs également. Les athlètes, j'ai jamais eu de problème avec les athlètes.
Ouais.
Fait que les athlètes, ça n'a jamais été, honnêtement, là, un problème. Tu poses une bonne question, l'athlète va répondre.
Ouais.
Et tu poses une mauvaise question, il va te revirer de bord, mais comme n'importe quel homme aussi.
Ouais,
là.
C'est ça, c'est vrai.
Ah, bah oui, j'ai jamais vécu ça du tout, moi.
Je te dirais même que les joueurs sont moins galants avec les hommes quand vient le temps de revirer le bord.
Ouais. Oh ouais, ils sont pas mal contents de le faire.
Oui,
je pense. Il attend juste ça.
Mais en tout cas, j'admire ta patience. Tu parles des réseaux sociaux. Je sais pas si c'est nécessairement à cause du fait que tu es une femme, à cause de ta visibilité à RDS ou du fait que tu es tellement investi au niveau de tes énergies dans les médias sociaux, mais je trouve que ta patience à l'égard des gens est hallucinante. Moi, je ne sais pas comment tu fais. Ton collègue François Gagnon et toi, vous êtes parmi les journalistes les plus impliqués sur les médias sociaux. Et honnêtement, tu sais, il y a des jours où je perds foi en la nature humaine. Puis, tu sais, alors moi, je m'abstiens de... Bon, là, je ne prendrai pas la peine de répondre. Mais non, toi, tu réponds, puis Le nombre de gars à qui tu réponds chef, et puis chef en question, il agit de n'importe quelle manière, sauf comme celle d'un chef. ça m'impressionne.
Ouais. Ben, ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un de très patiente. Et quand tu as été confronté à des insultes toute ta vie, Marc-Antoine, tu développes cette carapace-là, ce détachement, je te dirais. Je te dis pas que ça me rentre pas dedans. Parce qu'il y en a qui le font, mais en général, je prends plus ça avec un grain de sel et je suis portée des fois, parce que les gens vont écrire sous l'impulsion, sous la colère, sous la frustration souvent, parce que je remarque que les insultes les plus nombreuses, c'est après une série de défaites du Canadien.
Ah ouais?
Vraiment, littéralement. Et donc, je prends un détachement. Souvent, je leur réponds, ils sont tellement surpris de me voir répondre qu'ils vont s'excuser. Parce que, oh, ben, je savais pas que tu me lisais, mais c'est parce que chef, tu viens de m'écrire.
Ouais, c'est ça.
C'est sûr que je vais lire. Alors, mais là, je suis désolée, Chantal, je voulais pas te balancer cette merde-là. Mais écoute, là, je suis frustrée pour telle et telle raison. Et des fois, ils réalisent carrément qu'ils sont un peu cons dans leurs commentaires. Tu sais, qu'ils vont.
Ils ont honte un peu, là, tout d'un coup. Parce qu'il y a comme une... Tu sais, il y a un humain à l'autre bord, puis il ne se réalise pas. Là,
c'est ça. Fait que, tu sais, ils vont juste écrire sous l'impulsion de la colère, puis après ça, ils se disent « Ah oh, non, c'est vrai, j'étais con. » Alors, c'est ça. C'est ce qui arrive les trois quarts du temps, là, quand je vais me défendre ou je vais répondre. Ou il y en a aussi, tu sais, qui vont tout de suite s'imaginer que ils vont se faire une idée tout de suite comme quoi ce que tu as écrit, c'était méchant ou c'était discriminatoire ou c'était... Alors que c'était pas du tout ton intention. Tu sais, des fois, ce que tu écris, c'est juste des mots. C'est pas...
c'est tes pensées sans filtre.
Exactement. Puis des fois, je dis, oh non, c'est pas ça que je voulais dire. Attendez, là, c'est pas ça du tout. Là. Mm-hmm. Puis là, tu dois expliquer. Puis là, les gens disent, ah oui, OK, je l'avais pas vu de même. Je l'ai vu de façon négative. Alors que je suis pas une personne qui est virulente, là, du tout.
Non, je dirais, ouais, c'est ça.
En tout cas, on va demander aux Canadiens d'avoir des fiches immaculées aller des saisons de 8 défaites pour que les gens soient de bonne humeur puis qu'ils puissent enfin commencer.
Écoute, je me rappelle dans ce temps-là, là, parce que je couvrais pas le Canadien, mais je les regardais, là, et les gens critiquaient pareil. Critiquaient Scotty Bowman, puis critiquaient Lafleur, puis Chat, puis Lemaire, puis tous ces gars-là, qui sont tous au temps de la renommée. Parce qu'il y avait une défaite. Il y en a eu 8 dans la saison, mais les gens chiolaient pareil. Alors, les gens chioleraient pareil.
Bon, ben écoutez, je vais vous laisser, je vais vous laisser partir à votre morning skate. Là. Je regarde l'heure qui avance. Alors, Chantal, je te remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est bien agréable de t'avoir eu à nos côtés au support athlétique. Et puis, ben écoutez, oui.
Oui, ben j'allais dire, c'est un grand honneur. Je suis très contente.
Ah, ben non, c'est notre honneur. On est tellement contents, puis c'était agréable. Puis c'est ça, on aime travailler avec toi aussi. Alors, c'est le fun de jaser du Canadien et de ta carrière aussi avec nos auditeurs. On va le faire encore.
Avec plaisir. Ouais, cool. Je suis là.
Bon, parfait. Okay. Tout le monde, restez des nôtres. On vous revient après ceci.
Imaginez-vous une journée de type pantalon de jogging à la maison. Sauf que vous n'avez plus l'inspiration à savoir quoi vous cuisiner, ou bien vous en avez marre des restants de bouffe passés au micro-ondes, ou encore de la pizza congelée. Ah, c'est là que DoorDash entre en jeu. DoorDash vous met en contact avec votre restaurant préféré en ville. Commander est facile, vous avez simplement à ouvrir l'application DoorDash, choisir ce que vous voulez manger et votre repas va vous être livré chez vous, où que vous soyez. DoorDash est présent dans 3300 villes en Amérique du Nord. En ce moment, nos auditeurs peuvent obtenir 5$ de rabais sur leur première commande de 15$ ou plus quand ils téléchargent l'application DoorDash et qu'ils entrent le code promotionnel SUPPORT. C'est 5$ de rabais sur votre première commande quand vous téléchargez l'application DoorDash à partir du App Store et que vous entrez le code promotionnel SUPPORT. N'oubliez pas, le code est SUPPORT pour avoir 5$ de rabais sur votre première commande. Alors, cassez-vous pas la tête avec le souper, laissez le souper venir à vous avec DoorDash.
C'est toujours rafraîchissant de parler avec Chantal Maccabée. Elle est tellement enjouée, c'est tellement... Tu sais, quand on parle de bonne personne, Chantal Maccabée, c'est une bonne personne. C'est un joyau pour nous autres. C'est le fun, on a la chance aussi de la côtoyer sur la route, et puis c'est ça, donc c'est de la bonne compagnie pour les soupers, entre autres.
Ouais, puis en fait, ce qui est cool, c'est de voir le niveau de... Tu sais, elle parlait du fait qu'elle n'a jamais eu de problème avec les joueurs, là. Et quand elle disait ça, tu sais, les joueurs, ils ont comme une attitude différente quand c'est elle qui demande une question. Il y a une certaine révérence du fait que le vécu qu'elle a, la pionnière qu'elle a été dans notre métier, je pense que les joueurs le reconnaissent pour ça. Puis tu sais, tu vas jamais... Les joueurs ont toute la patience au monde pour Chantal. Là. Chantal, elle vient dire qu'ils vont revenir si elle demande une mauvaise question. Là, c'est pas vrai. Parce que, premièrement, elle demande quasiment jamais des mauvaises questions. Puis quand elle le fait, les joueurs ont une patience énorme pour cette femme-là, juste à cause du fait qu'il y a une certaine reconnaissance de tout ce qu'elle a vécu et de l'importance de sa carrière dans le monde du hockey.
Oui, absolument. Écoute, avant qu'on se laisse, là, tu avais écrit il y a une dizaine de jours sur l'importance du mois de novembre sur la saison du Canadien dans son ensemble à cause des matchs qui étaient à sa portée. Est-ce que tu trouves qu'en ce moment, dans la façon de jouer du Canadien, il en fait assez ou il s'arrange suffisamment pour pouvoir ramasser les points nécessaires là, à ce temps-ci de l'année?
Mais non, honnêtement, là, c'est la façon qu'il joue, non. Je pense que Claude Julien est très reconnaissant du fait que, puis comme on parlait avec Chantal, tu sais, ça manque de patience ou un peu ce niveau d'urgence. C'est relié à ça, au fait que oui, ils sont en train de ramasser des points, alors c'est un positif, mais la façon qu'il joue, je pense qu'il risque de pas profiter de cette partie-là de leur calendrier suffisamment s'ils sont pas capables de resserrer leur jeu puis de peaufiner un peu les aspects de leur jeu qui fait en sorte que c'est une équipe redoutable souvent que les équipes adverses n'aiment pas affronter. Le zone neutre, on parlait du zone neutre au début du podcast, mais un paquet d'affaires qui fait en sorte le mauvais production des attaquants, comme Chantal a mentionné tantôt. Il y a toutes sortes de petites choses qu'il va falloir qu'ils corrigent pour effectivement finir, terminer le mois en force et vraiment, vraiment profiter de ce calendrier-là qui va terminer en fin de novembre, parce qu'après ça, ça va devenir vraiment, vraiment difficile pour le Canadien.
Puis, écoute, c'est quelque chose dont les joueurs ne parleront jamais. Ça va être un peu tabou, puis ça aurait l'air d'une excuse, mais quand tu regardes les autres équipes autour, les Maple Leafs qui jouent en ce moment sans Mitch Marner, les Penguins de Pittsburgh qui ont perdu les services de Sidney Crosby pour environ 6 semaines, sinon plus, puis qui sont déjà sans Christopher Le Temps, t'as là deux rivaux directs du Canadien pour une place potentielle dans ces séries éliminatoires. Alors, non seulement il y a le calendrier, mais il y a le fait qu'il y a certaines équipes, certains rivaux directs qui sont amochés à l'heure actuelle. Raison de plus pour le Canadien d'en tirer profit en ce moment.
Oui, absolument. C'est vraiment bizarre. Puis quand j'écris ce texte-là sur le calendrier de novembre, tu sais, je me sentais un peu, tu sais, un peu... C'est quoi le mot, là? C'est comme si je paniquais en novembre pour les séries, mais la réalité de la Ligue nationale en ce moment, c'est qu'il faut que tu paniques pour les séries en mois de novembre. Il faut que tu paniques à chaque match pour les séries parce que ça va se jouer de même. Là. C'est une question de 2, 3 points, 1 point des fois. Et chaque partie du calendrier où c'est peut-être pas facile, mais plus favorable à mettre des points en banque, il faut en profiter. Puis les Canadiens sont en plein milieu de leur période, de tout le calendrier, de toute la saison, sont en plein milieu de cette période-là où il faut qu'ils mettent des points en banque.
OK. Ben écoute, il va falloir battre des bonnes équipes aussi. C'est le cas ce soir face aux Capitals de Washington. Alors, Arpin, je te laisse aller. Je laisse aller aussi tous nos auditeurs. Merci d'avoir été des nôtres. Et puis, on va se retrouver, les abonnés de athletic.com. On a notre mini-podcast du lundi, évidemment, comme à chaque semaine. Alors, portez-vous bien, tout le monde. Salut, Arpin.
Salut.